L'essentiel des chroniques du dimanche, partout, quand vous voulez.
Et la revue du net, avec aujourd'hui coup de projecteur sur l'emploi sur Internet, le secteur des nouvelles technologies et plus particulièrement du web 2.0. C'est en plein boom, hein, c'est ce que vous nous dites. Et on recrute, bonne nouvelle Catherine Nivez.
Pour les informaticiens, 2007 est une année faste. L'emploi dans l'informatique augmente à nouveau depuis 2006, alors qu'il a tendance à baisser dans les télécoms. C'est donc sur Internet qu'on recrute cette année en priorité. Les sites d'emploi et le nombre d'annonces sont là pour en témoigner. L'APEC, l'Agence de l'emploi des cadres, recense 22 000 offres sur son site, apec.fr, dont une majorité dans l'informatique, les services et l'ingénierie. Mieux et plus spécialisé dans l'Internet, mouvement.fr recense 70 000 annonces. Ce site utilise les nouveaux outils du web comme la géolocalisation des entreprises avec Google Maps ou les réseaux sociaux pour contacter différemment les employeurs. Les infos sont sur le site mouvement m2ovement.fr.
Alors certains secteurs créent de nouveaux emplois sur le web comme la vidéo, plus souple techniquement et moins coûteux que la télévision. La publication de vidéos devient une activité professionnelle pour certains internautes amateurs. Vous en avez rencontré d'ailleurs Catherine, l'un d'eux, et on les appelle, mais comment on les appelle d'ailleurs?
On les appelle les podcasteurs. Ils se sont spécialisés dans le son ou les images qu'ils diffusent sur Internet. Le podcast vidéo, c'est la passion de Thierry Weber. Spécialisé dans l'électronique, ce trentenaire de Lausanne est rapidement devenu le premier podcasteur en Suisse. Une histoire en forme de conte de fées qu'il n'avait pas imaginé au départ. Thierry Weber.
Alors quand j'ai commencé à faire du podcast, jamais, au grand jamais, je ne devrais pas le dire, je me suis préparé à faire un business plan, avoir un business model ou quoi que ce soit. Je suis vraiment parti dans l'esprit de me faire plaisir, de publier du contenu et puis surtout de me dire, ben voilà, ce que je fais, tout le monde peut le faire, mais moi je prends le pari de le faire tout de suite. Et force est de constater que ben voilà, ça débouche sur une activité, ça débouche sur du business, ça débouche sur des demandes. De plus en plus, les gens ont envie de voir leur société, leurs produits ou simplement des petites séquences, des interviews traitées de façon beaucoup plus pro pour atterrir sur Internet.
Des images professionnelles et bien référencées, c'est toute la différence entre un podcasteur averti et la foule des amateurs sur le web. Après avoir fait des vidéos pour lui et pour ses lecteurs, Thierry Weber s'est mis à travailler pour les entreprises, de plus en plus nombreuses à se lancer sur Internet.
Je constate que de plus en plus de sociétés se disent « Tiens, oui, on peut apparaître en vidéo, on peut se permettre, c'est pas si cher que ça pour présenter nos services, nos produits ou simplement notre image. » Donc c'est très fréquent qu'à la suite d'un film, d'une réalisation, un autre client arrive pour me dire « Je veux la même chose. » Donc au niveau prospection, je reste la tête froide et humble par rapport à ça. Je suis très content de voir qu'effectivement, il y a un effet boule de neige par rapport à la réputation et surtout par rapport à l'appel de mes services.
La réputation, c'est pour l'instant ce qui dicte le choix des employeurs autour des podcasteurs. Thierry Weber vient de lancer en Suisse le CV vidéo pour les demandeurs d'emploi. Pour faire face à la demande, il recrute à son tour et recherche du monde pour l'aider dans la réalisation de ses podcasts vidéo. Pour le joindre, connectez-vous sur son site. Thierry Weber en un mot, Weber, W-E-B-E-R.com.
Merci, c'était la revue du net de Catherine Nivez. C'est une chronique que vous pouvez réécouter grâce au podcast d'Europe 1 que vous téléchargez gracieusement sur notre site www.europe1.fr. Allez, c'est le moment de parler des nouveaux DVD dans la chronique de Marc Gonnet, bien sûr. Chronique qui s'appelle comment ? Bonus caché, c'est bien. Et cette semaine, chanceux, hein, Marc a rencontré Isabelle Carré pour le DVD de Anna M.
Depuis quand on peut accuser quelqu'un d'aimer ? Depuis quand c'est un crime ?
Michel Spinoza s'est longtemps posé la question. C'est un réalisateur acharné. Son précédent film, La Parenthèse Enchantée, est sorti il y a 7 ans. Et depuis, il n'a qu'une idée en tête, réaliser Anna M. Aujourd'hui, Anna M sort enfin en DVD et il a réussi son pari. C'est un formidable thriller intime. Au départ, Spinoza voulait filmer la jalousie amoureuse et en se documentant, il a découvert l'érotomanie. Attention à ne pas confondre avec la nymphomanie, bien sûr. Les érotomanes sont persuadés d'être aimés, alors que ce n'est pas le cas. L'érotomanie se déroule en trois actes, l'espoir, le dépit et la haine. Trois actes bien sûr un peu comme au théâtre, sauf qu'ici il n'y a pas de fin, puisque l'érotomanie ne se guérit jamais vraiment. C'est une maladie à la fois terrible et belle. Isabelle Carré qui joue Anna est une nouvelle fois parfaite dans le film, aussi envoûtante qu'envoûtée, sans doute parce qu'elle a cherché à comprendre les érotomanes.
Je me souviens d'une phrase du psychiatre que j'avais rencontré pour travailler ce rôle, qui était assez émouvante. Il m'avait dit, mais finalement, moi, parfois, j'envie ces femmes qui ont une intensité amoureuse que nous n'atteindrons, nous, jamais.
Est-ce que c'est vraiment de l'amour ?
Alors, on peut effectivement se poser la question, mais en tout cas, ce qu'elles ressentent, elles, l'exaltation qu'elles ressentent est presque mystique. Elles sont soulevées de terre, presque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, dans les choses que Michel m'avait donné à lire, il y avait la vie de Sainte Thérèse. Je me souviens, je le lisais dans le bus. Je montrais pas trop la couverture parce que c'est assez étonnant.
Sur le DVD, énorme effort d'originalité dans la conception des bonus, 25 petites minutes seulement, mais tout est du caviar, ça se déguste, avec surtout ce petit supplément qui s'appelle Une comédienne au travail. On voit plusieurs fois la même scène sous toutes ses nuances. Écoutez le réalisateur et sa comédienne sur le DVD.
Moi, je me souviens que j'avais imaginé la scène où Anna reste au fond. Et très vite, tu m'as dit, j'ai envie de m'approcher. Et bon, voilà, c'est ça qui est chouette, c'est que vas-y quoi, approche-toi et on y va, et on va voir ce qui se passe quoi. Et surtout, n'ayant pas le sentiment de finir, de sortir de la scène en ayant laissé échapper
des possibilités.
Voilà.
Et la scène se construit au fur et à mesure.
Là, on avait fait les prises dites propres.
Voilà, et maintenant on commençait à
s'amuser.
Ça commence à monter gentiment.
Ça monte gentiment.
Ouais. Ça a monté franchement d'un cran dans la prochaine, en fait.
Pour être si juste, Isabelle Carré a un secret. C'est un peu son acteur studio à elle. À chaque fois que vous travaillez un rôle, vous adorez, vous immergez dans un univers musical. Vous aviez l'habitude d'écouter Björk pour préparer peut-être Se souvenir des belles choses, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, exactement. Et vous êtes bien renseigné.
C'était quoi cette fois-ci?
Alors, il y avait beaucoup Coco Rosie. J'écoutais aussi pas mal de musique classique. Enfin, il y avait pas mal de sources d'inspiration. D'ailleurs, ces musiques-là m'avaient été... C'est Michel Spinoza qui m'avait confié ces musiques-là. Donc, dans mon iPod, il y avait marqué Anna, musique. Et je m'aidais beaucoup, beaucoup de ça, ouais.
Et les autres bonus du DVD sont aussi tous très bons, avec un excellent entretien et deux petites scènes commentées très riches d'enseignements. Et ce qui frappe, bien sûr, c'est la complicité du réalisateur et de son actrice. Ils devraient très vite retravailler ensemble.
On s'en parlait même pendant le tournage. C'est sûr qu'on a envie de retravailler ensemble. Et là, il est en train d'écrire et j'espère que ça durera pas 7 ans. Michel, si tu nous entends, dépêche-toi.
En attendant, Anna M est disponible partout en DVD.
Est-ce qu'on va se revoir ou bien?
Belle séance à tous.
Voici, comme chaque dimanche matin, l'actualité de la musique classique. C'est avec notre spécialiste Thierry Geffrotin.
L'auteur de cette charmante danse villageoise a dit un jour en parlant de lui « Je ne suis pas plus bon à cette besogne qu'à cirer des bottes ». Attention, ne nous y trompons pas, ce n'est pas de musique dont parle le compositeur, mais de son emploi au ministère de l'Intérieur. Il est expéditionnaire au bureau des ampliations. Le titre n'a plus vraiment de sens aujourd'hui et le travail est sans intérêt pour le jeune homme de 20 ans. Mais il faut bien vivre et surtout, il convient de respecter la volonté de ses parents. Car avant d'être musicien professionnel, Emmanuel Chabrier a été fonctionnaire de l'État. Pendant presque 20 ans, il a partagé sa vie entre ce travail obscur et sa passion pour la musique. Partage inégal, vous vous en doutez, c'est surtout la musique qui occupe sa vie. Et dès son plus jeune âge, enfant intelligent et aimable, nous apprend l'un de ses bulletins scolaires, un peu turbulent mais surtout très préoccupé de musique. Emmanuel a 11 ans et apprend le piano depuis 5 ans déjà. La musique pour le plaisir, mais un autre métier attend Chabrier. Il sera magistrat. C'est la carrière que l'on embrasse dans sa famille depuis des lustres. Donc ce sera le droit et la musique. À 15 ans, il a déjà à son actif quelques compositions et quand il en parlera plus tard, il ne sera pas tendre avec lui. « Je composais déjà des cochonneries, valses, pot-pourris, romances imbéciles. J'avais une mémoire de tous les diables et j'épatais les bourgeois en leur lâchant séance tenante des fantaisies sur des tas d'opéras. » À 20 ans, licence de droit en poche, Emmanuel Chabrier entre donc dans l'administration sans lâcher pour autant la musique. Composition pour piano, pièces vocales, œuvres pour orchestre, musique théâtrale, aucun genre ne lui échappe. Mais il reste un amateur aux yeux de beaucoup de ses confrères, compositeurs et musiciens. Et cette situation lui pèse autant que ce métier de gratte-papier qu'il n'a pas choisi. Alors Chabrier prend la décision qui s'impose, mais pour se consacrer totalement à la musique, il lui faut d'abord démissionner. Le 8 novembre 1880, à 39 ans, il envoie une lettre au ministre de l'Intérieur, Ernest Constant. Arguant de problèmes de santé qui lui ont déjà valu des arrêts de travail, il demande sa mise en disponibilité. Le 12 novembre, il reçoit une réponse positive qui prend la forme d'un arrêté ministériel. Emmanuel Chabrier aura mis 19 années pour prendre sa décision et 4 jours seulement auront suffi pour qu'il obtienne l'autorisation et que son rêve se trouve enfin réalisé, devenir un musicien professionnel à plein temps. Un extrait de la danse villageoise d'Emmanuel Chabrier par l'orchestre Les Siècles sous la direction de son chef François-Xavier Roth, un disque Mirare. Pour en savoir plus et beaucoup plus pour tout savoir sur Emmanuel Chabrier, un livre aux éditions L'Harmattan, L'Odyssée musicale d'Emmanuel Chabrier, est signé Éric Lacourcelle.
La musique classique chaque dimanche matin sur Europe 1 avec notre spécialiste Thierry Geffrotin que vous retrouvez régulièrement dans le magazine culturel d'Europe 1 du lundi au vendredi 8h-39h. Ça s'appelle Allez-y de notre part. Il y est fortement question également de musique classique. Place maintenant au portrait de femme. C'est avec Marie-Madeleine Rigopoulos. Et ce matin, eh bien, nous allons faire la connaissance de Dorothée Boissier.
À seulement 36 ans, l'architecte d'intérieur Dorothée Boissier, jeune femme gracieuse et longiligne, a déjà derrière elle un parcours digne des plus grands. C'est en 1993, après une prépa Sciences Po, que la jeune fille décide que sa voix se trouve forcément dans un domaine artistique.
Je dois rêver d'une certaine façon et pouvoir le matérialiser dans ma vie de tous les jours. Au début, c'était pas forcément l'architecture intérieure, mais j'avais envie d'être dans ce domaine artistique où finalement, les tripes, elles doivent sortir, elles doivent être mises sur la table et c'est ce qui me plaisait. J'avais besoin de cette sorte de violence pour accoucher de quelque chose.
Une violence qu'elle va canaliser en suivant les cours de la célèbre École supérieure d'art graphique et d'architecture d'intérieur, Penny. Groningen. Au bout de 5 ans, Dorothée Boissier sort major de sa promotion et entre alors dans l'agence de Christian Liègre. Ce décorateur d'intérieur a de nombreux projets chez des particuliers et Dorothée apprend avec lui les bases du métier.
On nous donne un espace et on doit le créer, l'imaginer. On part de ses rêves, d'une discussion très ouverte. Ensuite, on arrive sur des matériaux, sur des croquis. Et ensuite, on part sur la phase vraiment d'élaboration et de construction. On est dans la phase de travaux et ensuite c'est le clap et on livre le projet.
Au bout de 3 ans, Dorothée quitte l'agence de Christian Liègre pour entrer dans celle du célèbre Philippe Stark.
Ça c'est une rencontre moi qui m'a énormément touchée et qui m'a énormément apporté. C'est-à-dire que je pars d'une expérience intéressante avec un homme plutôt esthète et plutôt contenu et j'arrive vers un homme totalement débridé, drôle, intelligent et en même temps extrêmement précis et détaillé dans sa façon de travailler.
Au bout de seulement 2 ans, Philippe Stark offre à Dorothée la possibilité de former sa propre équipe. De 1998 à 2006, elle va participer et même superviser de très grands projets comme les boutiques Jean-Paul Gaultier et le musée Baccarat à Paris.
J'apprends d'un côté la rigueur, la méthodologie, comment écouter un client, mener un projet, le développer. Et j'apprends par ailleurs une totale folie dans la rigueur. Savoir surpasser des principes qu'on peut avoir, savoir oser dire ce qu'on a à dire. Donc ça c'est ce que j'apprends avec lui. Ne pas avoir d'interdit.
Aujourd'hui, à la tête de l'agence Gilles et Boissier, Dorothée et son compagnon forment un couple soudé et porteur d'un style très personnel. Influencés par leurs maîtres respectifs, ils ont choisi une ligne contemporaine, certes, mais où le passé a toute sa place.
On aime mélanger, par exemple, des boiseries 18e et qu'on retravaille dans des bois différents, des bois très bruts, brossés. On aime détourner des lustres en bois en y intégrant d'autres motifs. On aime travailler les cuirs repoussés qui étaient utilisés aussi au 18e. On redessine, donc on aime ce mélange des époques. Nos projets sont assez riches, puisqu'on retrouve des matériaux assez travaillés, et en même temps, c'est assez cadré et moderne, puisqu'on a quand même ces valeurs, je dirais Stark et Liègre, où il y a une vraie organisation de l'espace, c'est assez rigoureux. Quand ces projets sont réussis, c'est quand on sent que les hommes, ils sont bien. Et qu'il y a quelque chose qui se passe de chaud. Et c'est pour ça essentiellement qu'on fait d'ailleurs des projets publics. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ces espaces vivre et bouger, se vider, se remplir.
Le restaurant Budakan à New York, bientôt l'ancienne ambassade américaine à Pékin, Dorothée Boissier est à l'origine de magnifiques projets de par le monde. Travail, vie de couple, création, des notions indissociables pour une jeune femme qui a choisi de vivre en matérialisant les rêves.
Les portraits de femmes de Marie-Madeleine Rigopoulos. Et je vous signale que cette interview est disponible dans son intégralité sur notre site europe1.fr. Et comme promis, nous partons sur les traces de la coupole avec Vanessa Zah.
Jackie, j'espère que vous vous tenez prêt à sabrer le champagne parce qu'on fête cette année les 80 ans d'une muse parisienne. Comme quoi, on peut encore être une muse à 80 ans, c'est possible. Cette déesse, eh bien, c'est la coupole. Alors, quand elle voit le jour en 1927, c'est plutôt compliqué. Elle naît déjà des restes d'un vieux dépôt de charbon à Montparnasse. Et Gabalda, le propriétaire des lieux, édite aussi des textes religieux. Donc, vous l'aurez compris, il n'est pas vraiment chaud pour l'ouverture d'un lieu où les gens se déhancheront sur des danseuses diablé comme le tango ou le charleston. Finalement, on réussit à en faire le lieu incontournable de la capitale. La coupole brille de mille feux, on l'habille de magnifiques piliers recouverts de lèpre vert. D'ailleurs, la légende dit que les artistes qui ont décoré ces piliers sont devenus eux-mêmes des piliers de bar. Ils auraient été encouragés par un crédit illimité sur les boissons. À vérifier. Dès sa soirée d'inauguration, son destin est tout tracé. Ça ne peut en être autrement d'ailleurs hein, quand ça se passe un 20 décembre. Comme dit Kurnonsky, le vin, la date, l'alcool, dissipe la tristesse. Écoutez Georges Viau, historien.
C'était un mardi, il faisait très froid, il y avait du verglas. Il n'y aura que 2500 invités, on va boire que 1200 bouteilles de champagne. À 3h du matin, des taxis iront chercher des boissons alcoolisées, bien sûr, et André Warneau, qui a inventé l'expression « l'école de Paris », dira qu'il est parti à quatre pattes parce qu'il y avait du verglas.
Ici, c'est la folie nocturne, c'est le lieu de toutes les libertés, des années folles. Tout est permis, enfin, on se permet tout.
C'est un espace de fantaisie, et si on prend Jean Cocteau, qui a fait un poème le jour de l'inauguration, et ce poème, d'ailleurs, a été égaré, Si on prend Kiesling, qui lui se baignait tout nu dans la vasque de la coupole, le prince, un des princes de Montparnasse, et il y avait aussi Granowski, qui était polonais, qui se déguisait en cow-boy, et de temps en temps, il amenait son cheval sur le boulevard. Il y avait Colbert, qui se disait descendant de Colbert, et qui, en fait, il était américain, et qui était déguisé en Iroquois, en Indien du Canada, avec des plumes de coq.
Sans oublier Joséphine Baker, qui venait avec Chiquita, son guépard, ou Suzy Solidor, qui se promenait avec son boa. Vous l'avez compris, l'exotisme est aussi à la mode. D'ailleurs, le plat emblématique de la coupole ne serait-il pas par hasard un plat exotique et épicé?
Ah, le curry d'agneau à l'indienne, Babel de Montparnasse, c'était forcément un plat qui nous vient de l'Inde. D'ailleurs, à partir de 27, il était servi par un indien habillé dans un somptueux costume tamoul et il servait le curry d'agneau en salle et il était très prisé par les dames.
Alors mesdames, ne ratez pas ce curry d'agneau. En plus, il vous est toujours servi aujourd'hui par un bel indien en turbané. Donc pour revivre les années folles, deux adresses, la Coupole et l'hôtel Raspail Montparnasse.
L'actualité des jeux vidéo, c'est avec vous, Pierre Fay. Et décidément, ce matin, on reste dans le champagne.
Konami va encore pouvoir déboucher le champagne avec Pro Evolution Soccer 2008. La précédente version s'est vendue en France à 1 600 000 exemplaires, record à battre. Cristiano Ronaldo a remplacé Thierry Henry sur la jaquette de PES 2008 aux côtés de Didier Drogba. Et ce n'est pas la seule nouveauté de cette simulation de ballon rond qui passe pour la meilleure sur le marché. Et ce, malgré la course-poursuite entamée par la série FIFA, particulièrement réussie cette année. PES a travaillé sur son point faible avec l'ajout de nouvelles licences comme le Brésil, le Ghana et forcément le Portugal et la Côte d'Ivoire. PES, le maître incontesté de la baballe sur console, est-ce encore le cas cette année? Réponse de Frédéric alias Rivaol du site jeuxvideo.com.
C'est toujours difficile de trancher puisque même si les deux jeux tendent à se rapprocher, ils restent suffisamment différents l'un de l'autre pour convenir à leur public respectif. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que PES n'a pas su progresser comme FIFA a pu le faire et clairement, celui qui exploite le mieux la technologie des consoles de nouvelle génération, ce n'est pas PES, c'est plutôt FIFA. Alors les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le gameplay a été modifié et le rythme de jeu accéléré. Du coup, PES est plus arcade que par le passé. Comme originalité, on peut parler de la fameuse IA Team Vision qui s'adapte à la manière de jouer de l'utilisateur, ou encore de la possibilité de simuler une faute ou de choisir le nombre de joueurs à inclure au mur dans un coup franc.
Alors sur console de nouvelle génération, FIFA fait visiblement un peu mieux. Sur PS2, ça donne quoi?
Sur PS2, ça ne change pas. PES reste clairement la référence. Alors il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à PES6. Konami a reconduit quasiment la même version. Mais comparé à FIFA, il est clair que PES s'impose sur PS2 très largement.
Frédéric du site jeuxvideo.com, PES 2008 de Konami est disponible sur PS2, PS3 et Xbox 360. Dans le football, une autre institution arrive sur les présentoirs, Football Manager 2008, le jeu de gestion de foot le plus complet et le plus prenant du marché. Sport Interactive a fait des efforts pour rendre le tout plus digeste et le jeu encore plus réaliste concernant notamment les blessures des joueurs et leur morale. C'est qu'il faut les bichonner, ces petites bêtes-là. Chérie, j'ai rétréci la balle, on va pouvoir jouer au ping-pong sur la Wii avec Table Tennis, édité par Rockstar Games. Moins joli que sur Xbox 360, Table Tennis est un régal sur Wii, avec bien sûr la Wiimote en guise de raquette. À deux, c'est enthousiasmant, la balle a des effets étonnants. Vous allez pouvoir jeter votre vieille table de ping-pong et pousser les meubles du salon pour cette excellente simulation qui va vous faire perdre du gras. Quand on vit sur la banquise, à part se geler les ailes, que peut-on faire? Eh bien, du surf. C'est du moins ce que fait Cody le Pingouin dans Les Rois de la Glisse, le jeu tiré du film éponyme et édité par Ubisoft sur la plupart des consoles. Et bonne surprise, c'est plutôt réussi, même si le jeu s'adresse avant tout aux plus jeunes et qu'il est doté d'une durée de vie assez courte. Cody, armé de sa planche de surf, va devoir affronter les meilleurs surfeurs sur de nombreux spots. Il va devoir prendre la vague, mais aussi effectuer des sauts et des figures pour marquer le plus de points possible. C'est classique, mais diantrement efficace, on s'amuse et c'est bien là le principal.
Voici les bonnes adresses de Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour monsieur Jean-Luc.
Bonjour monsieur Jackie.
Vous ne vous êtes pas trompé d'heure, c'est bien.
Ah bah bon, voilà.
Avec ce changement, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Mmh. Nous avons donc gagné une heure pour aller au champipi, au champignon.
Champignons. C'est magnifique, c'est une très belle saison de champignons. Hein. On regarde les létales, c'est sur tous les marchés, la girole, la pleurote, les très beaux cèpes, ces petits cèpes bouchons formidables. Et alors il y a une maison qui est en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, exactement. exactement, donc, comme son nom l'indique, c'est dans l'Orne, le manoir d'Ulysse. Pour quelle raison je vous parle de cette maison? Parce que ils font des stages, des week-ends autour des champignons.
Ça, c'est intéressant, ça.
Et le propriétaire de cette maison, qui est Paul Quinton, est un initié les gens et les emmène en balade. Ils arrivent le vendredi soir, le samedi matin, ils chaussent les bottes, ils prennent leur panier, ils ont le petit couteau et ils partent dans la forêt d'Andenne. Ça se chante forêt d'Andenne dondon. Et donc, dans la forêt d'Andenne qui est aux portes de Bagnoles de l'Orne.
Très jolie forêt.
Voilà. Et là, ils font les cueillettes, ils reviennent, ils conditionnent leurs champignons, ils passent aussi à table et ils vont manger leurs cueillettes. Donc, c'est une très, 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 très belle maison. Alors, c'est toute une famille, les Quinton. Très beau manoir d'Ulysse, vraiment en pleine nature, de très belles chambres. C'est une maison très confortable, c'est très doux. C'est des générations derrière cette maison qui cherchent à bien accueillir le client. Et le fils Franck Quinton, étoilé au guide Michelin, a repris le flambeau derrière papa, avec une très pointue. Par exemple, il fait des entrées. Moi, j'ai goûté chez eux. Bon, il y a un menu, bien sûr, que champignons, mais il fait par exemple un petit mijoté de queue de bœuf de race normande au foie gras et au mûres. Ça veut donc dire, il cuit la viande comme s'il cuisait une daube, mais avec des mûres. Donc il y a un côté parfumé de confiture de mûres avec la queue de bœuf. C'est un truc mais magnifique. C'est une entrée. Et en plus l'astuce, c'est qu'on prend le plat entier, c'est 22 €, mais on peut prendre le demi plat, c'est 13 €. C'est-à-dire qu'il y a cette formule où on dit j'ai plutôt une petite faim pour l'entrée, puis après je vais prendre un joli plat comme un riz de veau poêlé meunière et braisé avec qui fait un jus de veau, magnifique jus de veau et sureau. C'est-à-dire qu'il s'amuse comme ça avec les fruits, le carré de veau aux trompettes de la mort, la côte de bœuf de race normande et un lièvre à la royale.
Ah.
Fantastique. Et on retrouve, justement, dans la chasse aujourd'hui. Autrefois, on faisait le lièvre à la royale un peu comme un boudin. C'est-à-dire que le lièvre avait été désossé, fourré au foie gras, etc. Et on tranchait des darnes comme ça que l'on servait avec une très belle sauce royale. Et alors aujourd'hui,
ça c'était sous François Ier, ça. Hein,
c'était sous François Ier, mais je l'ai bien connu d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il sert comme ça un petit boudin de lièvre à la royale. Et à côté, il le sert en effiloché, qui était la vraie tradition du sénateur Couteau. C'était de le manger en effiloché. Et alors c'est magnifique parce qu'on entre dans un plat comme ça, c'est absolument divin. Voilà.
Donc initiation à la cueillette des champignons et dégustation après.
Et dégustation après ça, avec un premier menu qui pourrait être le rapport qualité-prix aussi, le menu don fronté, puisqu'on est en plein don fronté. 30 € entrée, plat, dessert dans une maison étoilée comme celle-ci. Croyez-moi, avec un beau coq au vin, avec des belles choses. C'est une vraiment très, très belle demeure.
Normandie, hein,
Bagnoles de l'Orne dans le 61, dans l'Orne.
Ça, faut noter, ça.
Voilà, il faut noter, ah ouais. Et ben, juste à côté, justement, le Franck Quinton, avec le gendre de la famille Quinton, Yvon, qui est un spécialiste des vins, ils ont ouvert une sorte de brasserie bistrot au centre de Bagnoles de l'Orne, la jolie ville thermale. Et c'est une belle bâtisse en granit, on ne sait plus si on est en Normandie ou en Bretagne, et juste au rez-de-chaussée. Alors, il y a de très belles chambres au-dessus, personne ne connaît, il y a une dizaine de chambres très modernes, c'est vraiment très confortable.
Qu'on peut louer ou
Oui, bien sûr, et on casse la croûte en bas, avec, vous savez, ce côté brasserie, c'est-à-dire long comptoir où on peut s'installer, on prend un premier coup de Sancerre. Alors, le fameux Yvon a le sens, il va chercher dans les vignobles les plus petit producteur avec une intelligence absolument remarquable. Et Franck Quinton a délégué la cuisine à un autre Franck qui est assisté d'un petit Baptiste, un petit gars qui apprend le métier. Et alors là, la broche tourne avec les magnifiques volailles du coin, avec les côtes de bœuf, avec les petits jarrets de cochon. Et l'autre jour, quand je suis arrivé, il avait le pinceau et on avait l'impression d'un plâtrier peint. Il était en train de repasser tout le jus de cuisson sur ses petits jambonneaux qui circulaient devant la flamme. Et vous savez, dans la lèche frite juste en dessous, il y a les pommes de terre, les carottes, le jus et les oignons. Ça, c'est absolument magnifique.
On voit les images.
Ah ouais. Et c'est donc le gaillot. Et ça, c'est vraiment, il faut aller faire un saut dans cette maison avec un menu week-end qui peut être aussi un rapport qualité-prix entrée, plat, dessert à 23 €. La broche, les fricassés de volaille, les sautés de gibier, etc., etc. Gaillot, c'est toujours, donc c'est au centre de Bagnoles de l'Orne.
Bon, on quitte la Normandie, Jean-Luc.
Oui.
Où va-t-on?
Un petit coup à Paris?
Ah oui.
Un petit tour à Paris.
Dans quel arrondissement?
Dans le 11e, 106 rue de la Folie-Méricourt. C'est l'auberge Pyrénées-Cévennes. Grande institution. Vous savez, en ce moment, j'ai un peu le virus de la cuisine lyonnaise parce que je trouve que ça va bien avec l'automne. Parce que, je sais pas, on entre bien comme ça, on se prépare à l'hiver. La cuisine lyonnaise, c'est costume tweed. Hein, c'est ce côté un peu pantalon de velours. Vous voyez, un peu le truc
chic
comme ça.
Chic feutré, mais voilà, décontracté.
En un mot. Alors, Daniel Constantin, c'est le chef de cette maison. formé dans les plus grandes maisons lyonnaises, qui propose un menu à 29 euros. Et quand vous arrivez dans cette maison, c'est une maison pour vous, Jackie. Parce que dès que vous arrivez, les charcuteries sont suspendues, vous savez, en l'air. Le saucisson galope autour du manche à balai. Les jambons sont là. Petite nappe à carreaux rouges et blancs. C'est pile le bouchon lyonnais de la grande ville.
Mais pourquoi ça s'appelle Pyrénées-Cévennes, alors?
Alors, parce que c'était autrefois, c'était ce nom-là. Il a gardé ce nom-là, Pyrénées-Cévennes.
Mais voilà, c'est plus une cuisine lyonnaise, alors.
Ah, c'est une cuisine complètement lyonnaise.
Complètement lyonnaise, oui.
Avec l'épouse de Daniel Constantin qui a travaillé au Café des Fédérations à Lyon. Elle a tenu ce Café des Fédérations pendant longtemps.
Donc, quand vous entrez, vous avez le saucisson qui vient vous titiller l'oreille.
Ah, ben voilà. Jésus, vous avez le Jésus sur la joue gauche.
Voilà, exactement.
Donc, ça, c'est bon présage.
Bonjour,
quand on a Jésus sur la joue gauche. Oui. Mais il fait comme ça dans, bon, toutes les spécialités, comme le tablier de sapeur. Bon, c'est
classique, hein.
Voilà. Mais il fait l'aile de raie au capre avec un beurre un petit peu soutenu. C'est un endroit où on mange le beau saladier. Alors, il fait tous les saladiers lyonnais, bien sûr, toutes les salades de museau, de lentilles et autres. Et il appelle ça d'ailleurs le caviar du Puy-en-Velay, bien entendu. Et c'est une des meilleures adresses. Et là, justement, peut-être que c'est pour ça qu'on appelle Pyrénées-Cévennes. C'est parce qu'il fait un cassoulet absolument remarquable. Si vous avez envie d'un grand cassoulet, c'est l'auberge Pyrénées-Cévennes. C'est 106 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e. Et croyez-moi que là, vous allez vraiment vous régaler. Alors, je rappelle les autres parce que, faut bien retenir, quoi.
Alors, surtout, là, en Normandie, faut partir un week-end quand même, hein.
Ah oui. Mais en plus, vous pouvez déjeuner au Gaillot et puis après passer à table de l'autre côté, dans la grande maison, dans le manoir du Lys, en même temps cueillir les champignons, vous balader. C'est splendide, faut découvrir cette maison.
Alors, rappelez-nous, Jean-Luc, les
adresses. Auberge Pyrénées-Cévennes, c'est 106 rue de la Folie-Méricourt, dans le 11e.
C'est pour le cassoulet.
Le cassoulet et la cuisine lyonnaise. Et le Jésus sur la joue gauche.
J'aime beaucoup, hein.
Voilà. Le Gaillot, c'est le bistrot de Bagnoles-de-l'Orne, la belle brasserie, donc dans Bagnoles-de-l'Orne, en Normandie. Et le manoir du Lys, c'est à Bagnoles-de-l'Orne. Aussi, c'est la maison un petit peu plus confortable. Enfin, juste, terminons par une information. Le nouveau Goemio vient de sortir. Avec l'homme du jour, eh bien c'est l'homme de l'année, c'est Jean-Luc Rabanel. Très belle table, très moderne, un garçon d'une intelligence rare qui est à Arles. Ça s'appelle l'atelier de Jean-Luc Rabanel à Arles. Croyez-moi, tout jeune, tout beau, il prend les successions des Jean Bardet, des Michel Laurin, de Marc Menot, qui ont été les premiers disciples de Christian Millot. Et là, eh bien, chez Goemio, on fête ce Jean-Luc Rabanel avec beaucoup d'astuces et de fantaisie.
Décidément, ce prénom Jean-Luc est synonyme de bon goût. Merci, c'était les bonnes adresses de Jean-Luc Petit-Renaud.
Jacques Attali, écrivain, éditorialiste à l'Express, pour tenter de comprendre ensemble où va le monde. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Alors on connaissait la fuite des cerveaux européens vers les États-Unis, ceux des cerveaux français vers la Grande-Bretagne. Voici maintenant la fuite des cerveaux africains.
Oui, ce n'est pas nouveau et la conférence de l'Association des universités africaines qui vient de se réunir à Tripoli en Libye a fait un constat absolument accablant. L'Afrique perd les professeurs et les médecins qu'elle forme à grands frais. Ils partent et ne reviennent plus. Un tiers des cadres africains vivent hors du continent. Deux tiers des étudiants africains à l'étranger restent dans les pays où ils font leurs études, faute de perspectives dans leur pays d'origine. L'Organisation internationale de la migration, qui est le grand organe central de cohérence de l'ensemble des migrations mondiales, estime que 23 000 universitaires et 50 000 cadres supérieurs quittent chaque année le continent africain.
C'est vrai dans tous les métiers ?
C'est vrai à tous les niveaux et dans tous les métiers. 40 000 Africains titulaires d'un doctorat universitaire vivent hors du continent. Mais c'est particulièrement vrai pour les médecins, où l'Afrique fonctionne comme une école fabriquant à bon marché des médecins pour les pays du Nord. Au Nigeria, par exemple, sur 100 médecins formés chaque année, seulement 3 restent dans le pays. 10 000 médecins nigériens travaillent aux États-Unis. Il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin, pays qui souffre pourtant de terribles maladies, en particulier de malaria. Au Ghana, 80% des praticiens quittent leur pays 5 ans après l'obtention de leur diplôme. En Zambie, sur 600 médecins formés depuis 1964, seulement 50 s'y trouvent encore. Et de plus en plus, les étudiants en médecine de ces pays quittent leurs universités avant la fin de leurs études pour pouvoir se spécialiser dans des pays où il est possible de faire de la recherche.
Est-ce que l'Afrique est le seul continent concerné ?
Non, tous les pays du Sud le sont, et en particulier l'Amérique centrale et les Caraïbes. 50% des diplômés des universités de ces pays vivent à l'étranger, particulièrement pour les petits pays comme Haïti ou la Jamaïque. Leurs destinations principales sont évidemment les grands pays du Nord, et en particulier les États-Unis, l'Australie et le Canada.
Mais quelle est la démarche des pays occidentaux alors ?
Eh bien, ils font tout pour attirer ces élites. Les experts en logiciel, les ingénieurs, les médecins, le personnel infirmier, on peut les comprendre. Il manque aujourd'hui 150 000 infirmiers aux États-Unis et leur déficit en infirmiers qualifiés pourrait atteindre près d'1 million en 2020. Et ils font tout même pour aller chercher ces universitaires ou ces médecins d'ailleurs. Dans la province du Saskatchewan au Canada, plus de la moitié des médecins ont été formés à l'étranger et plus de 20% des 1530 médecins de cette région viennent d'Afrique du Sud où des recruteurs canadiens viennent sans vergogne faire leur marché. L'Afrique du Sud vient récemment de demander d'ailleurs au pouvoir public canadien d'arrêter de recruter leur personnel médical qualifié.
Et du coup, comment font ces pays pour compenser ces manques ?
Eh bien, c'est le monde à l'envers. Ces pays du Sud paient au prix fort du personnel qualifié venu des pays du Nord. 100 000 cadres non africains coûtent à l'Afrique 4 milliards d'euros par an. Les pays du Nord reçoivent gratuitement des cadres formés aux frais des contribuables des pays du Sud, qu'ils rémunèrent d'ailleurs plus mal que leurs propres cadres, tandis que les pays du Sud paient au prix fort des cadres venus des pays du Nord.
Mais y a-t-il une solution pour éviter ce phénomène de fuite des cerveaux ?
D'abord, il faudrait prendre conscience que la première aide que les pays du Nord pourraient apporter aux pays du Sud serait de former eux-mêmes davantage de médecins, d'ingénieurs et de chercheurs, et aussi d'aider ces pays à disposer des infrastructures universitaires qui leur permettraient de conserver leurs élites.
Bonne journée, Jacques Attali. Votre livre Gandhi ou l'éveil des humiliés vient de paraître chez Fayard.
Louis Schweitzer nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez la HALP, bien sûr, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des discriminations que peuvent rencontrer les gens du voyage.
En effet, c'est dans une petite commune de tradition maraîchère, une famille de gens du voyage a acquis un terrain dans l'intention de développer une production horticole. C'est un petit terrain, moins de 1000 mètres carrés. Le père y a installé une caravane dans laquelle vit la famille de 4 personnes. Toutes les petites installations horticoles et maraîchères de ses voisins sont équipées d'eau, d'électricité et beaucoup ont installé des équipements pour faciliter leur activité. Le père de famille de ces gens du voyage souhaite lui aussi disposer de l'eau courante nécessaire à la production qui lui permettra d'installer des sanitaires comme l'ont fait ses voisins.
Alors j'imagine que pour cela il faut une autorisation auprès de la mairie.
Oui, il faut une autorisation. Et il demande donc le raccordement en eau et électricité, l'autorisation de construire des serres ainsi que des sanitaires. Les autorisations lui sont toutes refusées. En revanche, sa demande de raccordement en eau est enregistrée à titre personnel.
Mais, donc il a quand même pu, au final, avoir son installation.
Eh bien non.
Ah.
La gestion de l'eau est confiée à un concessionnaire privé. Un devis est établi et l'acompte demandé immédiatement réglé. Mais peu de temps après, la mairie écrit au concessionnaire pour que cette entreprise suspende immédiatement les travaux de raccordement. Et pour autoriser le raccordement, le maire exige une attestation d'affiliation à la mutualité sociale agricole.
C'est normal d'exiger cette attestation-là ?
Non.
Non.
Renseignement pris, compte tenu de la taille de l'exploitation, moins de 1000 m², l'affiliation n'est pas obligatoire. Et donc, cette condition posée par le maire n'est pas justifiée.
Et comment la HALD, finalement, a été informée de cette affaire ?
Eh bien, bien sûr, le père de famille a saisi la HALD. L'enquête de la HALD a porté sur les faits. Il y a effectivement inégalité de traitement, puisque tous les voisins situés dans cette zone sont raccordés au réseau d'eau et d'électricité.
Alors, comment tout cela se termine-t-il ?
Eh bien, le réclamant n'a entrepris aucune action contentieuse. Son souci est de trouver une solution concrète à son problème concret et donc d'obtenir le raccordement pour lesquels les travaux ont déjà commencé et pour lesquels il a versé un acompte. Et dans un souci d'efficacité et de rapidité, la Haute Autorité a proposé une médiation. La mairie et le réclamant ont accepté cette solution et j'espère qu'elle débouchera sur une solution positive très rapidement.
Voilà, comme quoi n'hésitez pas à contacter la HALD, 11 rue Saint-Georges dans le 9e arrondissement de Paris, 08 1000 5000. Merci Louis Schweitzer, à dimanche prochain.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.